Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes amis au grec ou autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire, ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de notre vie et de notre tête qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à notre culture. Allez, venez, on vous sert un verre. Salam alaikum, alaikum, salut. On se retrouve aujourd'hui sur la Tay avec Amel.
Oui.
Nesrine.
Oui.
Théophile.
Hello.
Jed.
Ouais.
Kauter.
Présente.
Et Sid.
Comme toujours.
Voilà, la famille est complète, les haps sont complets. On est là pour vous redonner ce tea, encore une fois. On est au moment où l'épisode sortira, on sera en plein dans les fêtes de Noël, du Nouvel An.
Les examens.
Les exactement.
Pour certains.
Les gens qui auront déjà passé leur examen auront énormément de chance. Les autres comme moi qui devront attendre janvier. On se fait un peu avoir, mais bon, la vie continue. Wesh, alors l'actu du jour, on va parler bien évidemment du mouvement des gilets jaunes qui ont fait trembler tout notre pays et même de l'autre côté de la Méditerranée. Enfin perso, moi j'ai reçu des appels de ma mif en Algérie qui disait « Mais ça va, vous n'êtes pas blessée
partez à Paris !»«
Comment ça va? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien et tout ?» Et du coup, Théophile va nous présenter l'actu du jour.
Ouais, les gilets jaunes, alors ça fait beaucoup parler et il y a eu beaucoup d'analyses. Alors personnellement, je ne roule pas au diesel. Du coup, voilà, mon cas n'est pas vraiment représentatif de ce qu'ils peuvent vivre. Néanmoins, il y a un aspect du mouvement qui m'intéresse parce que la presse a beaucoup parlé des banlieues dans le cadre des manifestations, disant qu'elles seraient décisives dans le mouvement. Pourquoi est-ce qu'elles ne rejoignent pas les manifestations Déjà, est-ce que les banlieues doivent rejoindre ? Les banlieues ne doivent rien. Les banlieues ont leurs problèmes. Les banlieues ne roulent pas toutes au diesel et souvent ont juste le pass Navigo payé au mois. Ou juste pas de pass Navigo tout court.
La bande de 60 balles.
Bah, c'est ça, hein. 60, là, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un devoir des banlieues de rejoindre ce mouvement ? Alors, il y en a qui le pensent. Le mouvement, du coup, la marche pour Adama, qui était prévu au même moment qu'une des manifestations, a rejoint du coup la manif du même jour, et ont appelé du coup à cette convergence des luttes, que tout le monde n'apprécie pas, mais effectivement on peut voir que les luttes sont souvent les mêmes quand on vit en banlieue et quand on vit en zone périurbaine ou rurale. Sid, tu as peut-être envie de dire un truc ?
Ouais, dans la convergence des luttes, et notamment la convergence de la banlieue dans la lutte des gilets jaunes, il y a un truc qui m'a foutu le seum, c'est la différence de traitement en fait. Je viens de précisément Issou, c'est collé à Mantes-la-Jolie, et Mantes-la-Jolie, lieu de la fameuse humiliation collective qu'une centaine de jeunes ont subi par la police. Mais trois jours plus tard, j'ai eu un examen à la fac, donc en plein Paris. Je passe devant le lycée Montaigne. Même scène, blocage, bagarre. Mais là, il n'y avait pas de policiers pour venir mettre à genoux ces lycéens. Et ça m'a foutu le seum.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces lycéens, certains étaient armés de bâtons et d'autres armes.
J'ai vu les mêmes bâtons. Vraiment, Montaigne.
Je sais pas, je tiens juste à...
Non mais voilà, c'est ça. Moi, je suis vers Montparnasse, tu vois, il y a pas mal de lycées autour de chez moi. Et franchement, rien. Genre, c'était tranquille. Ils peuvent pas se permettre ça. Genre, tu peux pas mettre des gens à genoux en plein Paris avec des passants qui vont voir ça, tu vois.
Des
touristes. C'est des touristes, genre, c'est inconcevable, tu vois. Et du coup, ils se permettent de le faire quand il n'y a pas de, entre guillemets, de public, parce que parce qu'ils considèrent que les gens qui font partie du lycée et les gens de Mantes-la-Jolie sont apparemment pas un public qui...
Gênant.
Qui, ouais, gênant, ouais, à leurs yeux, pour sûr. Eux, ils sont habitués à ça, ils vont fermer leur gueule et c'est comme ça, tu vois.
Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en termes de traitement médiatique, on n'a pas le même traitement que lors des manifestations et des émeutes de 2005, par exemple.
Ah, carrément.
Néanmoins, il y a eu des morts. Ouais.
Il y a eu pas mal de.
Et on en parle très peu des morts faits durant ces manifestations-là il y a quelques années maintenant et ceux qui sont là actuellement. Je crois qu'il y a même un flic qui a visé une grand-mère au quatrième étage. Ouais. Quatrième étage.
Zahra,
elle en est morte.
Elle en est morte.
Alors, faites juste attention parce que ça, c'est pas sûr encore pour l'instant.
Ah ouais.
Donc, il n'y a pas de source pour
un. C'est le fils en fait qui a dit comme quoi le flic l'aurait vu
depuis
le tir. Déjà, quelle idée de viser un appartement.
C'est ce que j'allais dire.
Parce que l'impunité. Qui vise pas un bâtiment déjà.
C'est ça. Tu vises une grenade lacrymo pour qu'elle atteigne une fenêtre, machin.
Tu fais pas étage en plus. Hein. c'est pas tu vises au niveau du visage d'une personne ou quoi. Là, c'est Dieu que t'essayes de viser.
Quatrième étage. Elle était au quatrième étage. En plus, moi, quand j'avais entendu la première fois, je me suis dit, ah ouais, ouais, bon, elle va être au premier étage.
Ouais.
Un truc genre, tu sais, ça balance vers le haut. Non, elle était au quatrième étage. Et moi, de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est qu'elle a. Elle a dans l'ambulance en gros elle a dit dans l'ambulance ou avant je pense à sa voisine elle a dit qu'elle avait vu du coup un flic la viser elle a fait je sais pas pourquoi peut-être qu'il pensait que j'avais un téléphone
ouais ça
il faut parler d'autre chose que les gilets jaunes on n'a pas parlé des arabes pendant longtemps. Il faut qu'on revienne sur le devant de la scène.
Bah, en fait, si on a parlé des Arabes, il y a une journaliste, je crois, sur BFM TV ou sur ITV, je sais plus exactement.
CNews, ouais.
Elle a dit.
Non.
Elle a dit qu'en gros, le printemps arabe, t'as un magazine égyptien, là, il y a pas longtemps, qui a dit comme quoi les méthodes que les gilets jaunes emploient sont les mêmes que les frères musulmans durant le printemps arabe, durant l'Égypte et tout, et que du coup, il y aurait en fait un lien avec les gilets jaunes et les frères musulmans. Enfin, bref. Tout mais un lien, mais qu'elle a sorti de nulle part.
S'ils sortent pas le mot radicalisation une fois dans la semaine, ils sentent pas bien.
Ouais, de ouf.
Mais on en a beaucoup rigolé.
Moi, ce qui m'a pas plu, c'est la manière dont les journalistes ont dit ces policiers qui vous ont sauvé la vie à l'attentat de Strasbourg. Alors, c'est juste le GIGN. Je veux dire, entre CRS et. Comment ça s'appelle ? C'est pas le GIGN ?
Si.
Entre les CRS et le GIGN, je pense que c'est absolument pas les mêmes profils déjà de policiers.
Bah oui.
Ouais. Et je pense que c'est complètement débile et grossier dans le sens où c'est vraiment pris grossièrement de comparer ces deux forces.
Ces deux unités. Et donc on va demander aux médias de se refocus sur les gilets jaunes, sur le truc qui nous concerne tous et de pas se servir de ce malheureux incident pour retaper sur leur victime préférée, de laisser le repos aux familles des victimes et focussez-vous sur la vraie actu, sur votre taf.
Voilà, on clôture ce wesh avec un petit son d'un rappeur marocain que j'adore qui s'appelle Mad. Ziad est content. On écoute 3310 de Mad sur la taille.
طلعتي كتابة خرجتي لي شحال من حاجة اللي عمرك نشار بلا دار بحسابة خليتيني غير كنشوف انا وتصرف شخص من الخوت وشوف كتابة طلعتي كتابة خرجتي لي شحال من حاجة اللي عمرك نشار بلا دار بحسابة خليتيني غير كنشوف انا وتصرف شخص من الخوت وشوف جيب ولا موت سين فيجن الماسو ما تسناش ماما تجيب لي فطور في بلاطو صعبي لا لوطو لا كواترو دراري الزهر ومشاو تيستو في الباطو صعبي هاتي كبرنا فيه غرقنا مازالين صغار صعبي خليهم كيدواو جرينا تا تلفنا طريق الدار خو زوري الحصه غنتفارخو بعدو كاع ما كنتسابقو عايشين فيها وعارفين شنو فيها داكشي علاش عمرنا كنتخاطفو دربي دراري باش نساو اللي فات دراري وسطو في النخو في كاع الميكات عاشو الفيلم لا وجوان وبريكات حنا اللي هزينا البارا بلاد الشيخات طلعتي كتابة خرجتي لي شحال من حاجة اللي عمري كنت عارف للدار بحسابة خليتيني غير كنشوف انا وتصرف شخص من الخوت وشوف كتابة طلعتي كتابة خرجتي لي شحال من حاجة اللي عمري كنت عارف للدار بحسابة خليتيني غير كنشوف كنشوف على و تصرف شخصنا بخوت وشوف كنشوف سما و كنقول ماما ما تخافيش راسي راسي هزينو لي كتافي هما اللي مراد و ربي اللي كيشافي هاني هاني واخا يقولو الخيبافي ضحكت ملي فهمت الفيلم لا شطار جيت نشوف القدار رجع طاب رسمو في كلشي و ما خلاوتها بلاصة هادو خوتي اللي كنت كنتصحاب عيني في الكاش عيني في الفراش هادي حبيبة لا كاع ما تفهمناش بغيتيني بغيتك بغينا و ما حسبناش جرينا جريناش باقي ما زدناش بصح كنسامح و ما كنساش ما كنساش ما كنساش ما كنساش ياك ما كنساش فالروح ملاك فدماغي بليس فالقلب نوكيا 3310 الوقت لقص حدي ماشي انا اللي بغيت وعارف راسي ساكت وما كندويش ما 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 كندويش كدابة بتاعتي كدابة خرجي لي شحال من حاجة اللي عمري كنت عارف للدار بحسابة خليتيني غير كنشوف كنشوف على ود تصرف شخص من هاد الخوت وشوف كيسوني معي معي فيلم كي غادي سالي للي بحالي لا قلع لا ماني كاش عيش حياتي كما حاملاش وروني شو جاي باش نسالي فات كما نسالي فاش يسولوني معي معي فيلم كي غادي سالي للي بحالي لا قلع لا ماني كاش عيش حياتي كما حاملاش وروني شو جاي باش نسالي فات كما نسالي فاش يسولوني معي
Le thème d'aujourd'hui, c'est l'art, la culture et sa perception dans les communautés maghrébines, plus particulièrement avec nos parents, notre famille.
Je voulais préciser que ça pouvait changer déjà en fonction de l'endroit d'où on venait. Dans le sens où, par exemple, entre Tlemcen et... Enfin, ma mère est Tlemcen et mon père est de Bjaïa. Et déjà là, il y a une différence, genre Tlemcen est beaucoup plus axé artistique, j'ai l'impression que c'est culturel là-bas, c'est beaucoup plus axé art, musique, traditionnel, etc. Et que dans les montagnes berbères, on n'a pas le temps pour ces bêtises, tu vois. Mais que après, si t'es instruit, etc., bien sûr que tu t'intéresses à la musique, il y a même de la musique en Kabylie, etc. Mais c'est beaucoup plus axé dans la culture de Tlemcen que dans la culture de Kabylie. Donc je voulais nuancer le débat qu'on s'apprêtait à avoir, dans le sens où même à l'intérieur de notre vaste communauté, il y a des variantes en fonction des origines.
Moi je sais que la musique, c'était une façon pour moi de me renouer avec les origines de mon père. Notamment quand j'étais en prépa, j'avais beaucoup de temps à perdre parce que et du coup je me suis mis à Darbouka. Et du coup, je suis allé sur YouTube et avec les vidéos d'un vieux polonais, j'ai appris tous les rythmes du Maghreb, c'était génial.
Zéro coréen.
Et du coup, voilà. Et c'était vraiment un truc, j'ai appris comment est-ce qu'on fait de la musique là-bas. J'ai tapé un peu l'incruste dans les orchestres de mariage, pour voir un peu comment ça marchait. Et c'était une grosse encre, la musique. Parce que j'avais une formation très très classique. Avec quelques masterclass des fois, mais pas vraiment de réel intérêt. Et puis à un moment, je m'y suis mis, j'ai bossé à donf tout ce qui est rythme, tout ce qui est tonalité, gamme. J'ai tout oublié maintenant, sauf la Darbouka. Et elle me suit partout où je vais maintenant. Et c'est vraiment mon ami qui ne me quitte jamais. Voilà.
Moi j'aimerais bien parler qu'on commence aussi un peu en parlant des musées en fait. Parce que moi personnellement, l'art contemporain, c'était pas trop quelque chose, même en général l'art plastique, vraiment, donc la peinture, le dessin, etc., même la culture au sens propre, on va dire les films cultes, ce genre de choses, moi c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec l'école. Je pense que la première fois que je suis allée à Beaubourg pour voir les expositions permanentes, c'était avec l'école, et on m'avait mis en face d'un grand tableau tout gris. Vraiment tout gris, il n'y avait rien d'autre. Et on avait des carnets chacun et on me disait ok, bah maintenant notez votre ressenti, ce que vous pensez, etc. Et donc ouais, c'était vraiment la première fois où je me suis retrouvée en face d'un tableau comme ça et je me souviens avoir regardé ma prof en me disant mais elle est sérieuse elle, enfin c'est quoi ça, on est devant un tableau gris, qu'est-ce que tu veux qu'on note, tu vois.
Dans sa tête,
j'ai dit ça, mais par contre je lui ai vraiment posé la question, je lui ai dit mais madame, pour vous est-ce que ça c'est de l'art, enfin genre je vois pas ce qu'il y a d'artistique dedans, j'aurais pu le faire, etc. Et elle m'a expliqué oui t'aurais pu le faire mais tu l'as pas fait. Et tu vois, il y a ça, il y a que l'art c'est quelque chose de qui touche vraiment à la sensibilité aussi, que tu peux être touché par certaines choses là où tes parents ou d'autres ne vont pas vraiment être touchés. Et moi personnellement voilà, on m'a jamais vraiment sensibilisée à aller voir des expos, des trucs comme ça, et en fait j'ai plus l'impression que c'est moi qui ai ramené ça chez moi plus que mes parents, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir faire des expos avec mon père, mais avant, j'aurais jamais pensé faire ça, quoi. Donc, je sais pas, vous, quels sont vos ressentis par rapport à ça, par rapport à plus, ouais, l'art plastique, comment... est-ce que déjà, c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez des histoires, des anecdotes par rapport à ça? Amel?
Alors, moi, c'est pareil que toi, en fait, les musées, tout ça, c'était avec... c'était avec l'école, et mais bizarrement en fait j'aimais pas faire ça de manière collective. C'est-à-dire que moi quand j'allais avec l'école, je m'isolais tout le temps. Ouais t'inquiète. Du coup je m'isolais tout le temps et après l'école j'ai fini par y aller toute seule. Et mais sans l'école en fait j'y serais jamais allée. Genre j'aurais jamais eu cet intérêt-là pour les musées. Pareil pour l'art plastique, genre j'ai fait option art plastique juste parce que j'aurais des points en plus au bac. Et au final j'ai aimé, donc... vraiment, c'est juste des circonstances hasardeuses qui m'ont fait aimer l'art. Et aussi parce que je voulais des points en plus. Mais genre, sinon, à part genre, l'art plastique en soi, j'aimais beaucoup écrire. Et je l'avais dit dans l'épisode perdu, mais j'avais fait... j'écrivais... j'écrivais des fictions sur... Skyrock.
Ah oui,
c'est l'image que vous aviez oublié.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai entendu juste qu'elle parle de ça.
Est-ce qu'elle a osé le redire une deuxième fois?
J'ai osé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu t'a envoyé. Il fait, vas-y, on va faire cet épisode pour toi.
Non. On a besoin de taper les fiches encore une fois.
Allez, je vais aller. Vas-y, ma soeur.
Allez, continue.
Skyblog.
Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont fait la même chose. Donc, c'est pour pas qu'ils se sentent seuls.
J'avais un Skyblog sur les mangas.
Moi aussi, j'en avais trois. Skyblog.
Le sang, moi aussi. Que je mettais des articles sur Dragon Ball Z.
Moi c'était tous les mangas, j'étais en mode c'était un magazine, moi j'avais écrit mon nom c'était Info Manga.
Wow.
J'avais fait des fiches de manga.
Mais tu rigoles, attends, tu faisais ça en quelle année? Parce que ça se trouve
c'était au collège.
Ouais, mais toi t'étais
genre 2012 ou 13,
non,
comme ça.
Non,
moi.
Là j'avais un cerveau.
Ah, shot fire.
Moi j'avais pas de cerveau, je voulais grave faire ma meuf. Ah, et aussi.
Mais
tu sais, que je voyais des blogs faire des partenariats avec genre Fnac et tout, tu vois. Je me suis dit, je vais essayer de croquer aussi, ça va voir. Je leur ai envoyé un mail et ils m'ont dit, non, t'as pas assez d'audience. Ça fait mal, hein, mais c'est pas grave.
Tranquille, ça ira, ton partenariat. Je voulais des mangas. Avec la taille, tu vois.
Ouais, d'où voilà. Parce qu'en fait, moi je voulais des mangas gratuits. J'ai pas eu.
C'est trop mignon.
C'est pas grave. On fait avec. Mais du coup, genre, moi, ma fiction, je disais à personne que je la faisais. Genre, j'en avais un peu honte. Enfin, genre, c'était un peu mon jardin secret. Genre, j'avais mis un surnom sur Skyrock. Je m'étais... Enfin, genre, j'avais tout caché, en fait. Et maintenant, j'en parle comme ça. Enfin, je l'ai même redit une deuxième fois. Je l'assume, tu vois.
Mais c'est par rapport à tes parents
par rapport à mes potes.
À ta
potes.
Communauté ou même
ouais,
tout,
ma communauté. Genre, j'habitais à Villeneuve. T'sais, c'est très rebeu renois là-bas, tu vois. Il y a très peu de... Enfin, il y en a, mais en général, le collège, le lycée, ils vont dans un privé, tu vois. Donc, on se retrouve un petit peu entre nous. Et genre, je pouvais pas trop dire, oui, j'aime beaucoup les mangas. Déjà, une fois, j'avais dit que j'aimais les mangas, le rock et tout. Mm-hmm. Et il y a une meuf qui m'a dit, ah ouais, si j'étais un gars et tout, tu me dis que t'aimes le rock, je te demande mon numéro et tout. Je te demande, ah ok, c'est pas grave. Je te redemande mon numéro, genre, je t'ai passé. Je te redemande.
Genre, c'est même pas, je te donne pas.
Mais voilà, tu vois, c'était pas vraiment un truc dont t'étais fière. Enfin... aimer des choses différentes, tu vois, c'était bizarre. Et écrire, c'est encore plus bizarre.
Mais et surtout quand... Parce que ouais. ça te réduit
Ouais. Et tu passes à côté de beaucoup de choses et tu dois attendre de t'émanciper un peu de tes fréquentations pour
vivre ton truc à fond.
Puis même avec ma famille et tout, t'écris, tu fais des trucs comme ça, ok, mais ça t'apportera pas d'argent après, donc arrête.
Ça te fera pas vivre.
Justement, j'aimerais bien parler de ça, plus avec toi qu'auteur, parce que du coup, toi. T'as une vraie passion pour le coup, tu vois, pour la mode, du coup, depuis petite, on en avait parlé quand on avait fait le portrait vraie meuf à l'ancienne.
Ah oui,
on avait parlé de ça, tu vois, ça m'avait beaucoup touchée et ouais, genre...
Du coup, raconte
un petit peu rapidement, quoi.
En fait, j'étais une meuf très discrète quand j'étais petite, je sais, ça se voit pas. Mais j'étais hyper discrète, hyper réservée, j'étais gênée de tout et encore plus au Maroc. Pourquoi ça te fait rire?
Parce que si je savais comment t'es sapé.
Alors là, il faut savoir que Kamsa est habillé en sapologue. Sapologue, genre qui vient de péter un crocodile dans le marais.
Elle a une ceinture Gucci.
Une ceinture Gucci. Non, mais
je sais pas. Là,
elle est au max.
Imprimé tigre.
Une suprême GG.
Non, mais franchement, elle est au max. Elle est au max. Là, je sais pas. Vraiment, vrai. c'est la resta du groupe. Genre, vraiment.
Continue. Du coup, c'est ce caractère, ce type de caractère était exacerbé au Maroc parce que j'étais l'étrangère, je parlais, genre mon arabe était bancal, comme maintenant. Et le seul recours que je trouvais, c'était d'aller rendre visite à Ali, un couturier tailleur en bas de chez ma grand-mère. Et un jour, il m'a donné du fil, un bout de tissu et une aiguille. Il m'a dit « si tu veux, tu couds ». Et j'ai pas osé coudre devant lui. Du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai attendu que, tu vois, que ce soit Melinda. Je sais pas si tu connais. C'est le goûter au Maroc.
Ah, Melinda, ouais, je
sais. Ouais. Et du coup, j'ai attendu que ce soit que tout le monde soit regroupé dans un coin pour que je commence à coudre et tout. Et j'ai toujours été hyper secrète par rapport à la couture, encore aujourd'hui. Genre, parce que maintenant je suis en BTS mode et du coup je manipule la machine. Genre, quand la prof est derrière moi, je suis tétanisée. Genre, j'arrive pas à coudre. Et en fait, c'est comme Amel disait, c'était aussi mon jardin secret que j'ai toujours voulu garder.
Pour toi?
Ouais, voilà, pour moi. Et même quand ma mère rentrait dans ma chambre pour me dire tu fais quoi, alors que j'étais sur la machine, j'étais face à elle, et j'étais comme ça. Et je me tenais statique, je fais non, y a rien.
Donc pendant des années, t'as essayé de faire croire à ta mère que quand t'étais seule dans ta chambre, tu regardais le mur. Genre.
Tu regardais la machine.
Elle a juste dit ah, comme ça, ça va être une grande philosophe.
Réfléchis
trop.
Mais c'est, je trouve ça incroyable que.
J'ai pas fini.
On n'arrive pas à partager. Et donc, comme j'ai pas fini ma phrase, je vais la finir. Et maintenant que j'ai fini ma phrase et que je trouve ça incroyable qu'on puisse pas partager notre art, je te laisse rebondir dessus,
en fait,
finir
ton
sort.
C'est pas que j'ai pas pu la partager parce qu'en soi, ma mère, elle a jamais été contre. Bon, sauf quand j'ai atterri en fac de droit et que je lui ai dit que je voulais me réorienter en mode, elle m'a fait « T'es sûre de toi ?»«
T'es sûre, tu veux pas rester ? Droit, c'est bien. »
Mais sinon, elle m'a jamais vraiment... Comment dire, elle m'a jamais vraiment dit non, tu feras droit et un point c'est tout, tu vois. Elle voulait juste que je réussisse avec mon frère. Et juste, elle a jamais vraiment cru en moi. Et ça fait encore plus de mal que si elle me l'avait interdit, tu vois.
Tu penses qu'elle a pas cru en toi ou est-ce qu'elle ne croit pas en cette voix?
Elle croit pas en moi.
J'ai ma réponse.
Ok. Non mais genre à chaque fois qu'elle aimait trop me faire sur mon style vestimentaire. mais quand je vais à Orléans, je me canalise, je mettrai pas ça. Hein. Elle sait pas que j'ai acheté ça.
D'accord, je vois le délire.
Genre j'essaye de me canaliser juste pas pour juste pour éviter ces remarques qui font mal et qui saoulent aussi. Et après je pense que ça dépend aussi des parents. Moi, ma mère, par exemple, elle est, enfin, genre, c'est une blédarde au sens propre du terme. Genre, elle est née là-bas et elle a vécu là-bas. Et elle est issue d'une classe sociale relativement modeste. Du coup, on n'a jamais été. Là-bas, tu fais que bosser. T'as pas le temps pour l'art ni les loisirs. Même jouer au foot, les darons, mis à part à la plage quand ils vont avec leurs enfants, ils ont pas cette passion qu'ils gardent en eux. Et je pense que
il y a des parents au Maroc qui sont issus d'une autre classe sociale et qui sont plus sensibles à l'art. Et je pense pas que ce soit par rapport à notre mode de vie ou à notre culture, mais plutôt à un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a des personnes plus ou moins sensibles à ça, comme en France. Hein. En France, il y a des Français qui sont absolument pas sensibles à l'art. Il y en a d'autres qui le sont. Il y en a qui sont sensibles à la musique, mais pas à l'art pictural. Il y en a qui sont sensibles à... Bah justement à cet art pictural et peut-être pas au cinéma ou à la mode, etc. Je pense que même si on se focalise sur notre communauté, je pense que c'est quelque chose de commun à toutes les ethnies et toutes les communautés.
Je suis assez d'accord avec elle pour dire que le rapport à l'art, ouais, il est vraiment social en fait, hein. Parce que genre pourquoi après nous pourquoi on a fait cet épisode sur ça, parce que dans nos communautés il y a un rapport à l'art qu'on trouve différent à ce qu'on va trouver en général autour de nous, chez entre guillemets les Français. Mais il faut pas oublier que tu vois par exemple pour eux c'est à peu près c'est la même chose. C'est-à-dire que le mec qui habite je sais pas moi entre Dijon et je sais pas quoi genre dans une ville où il y a pas de musée il en a genre si son fils il lui dit ouais je veux être peintre, il va le regarder, il va lui dire mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, fais de l'argent, tu vois, parce que c'est la même chose entre guillemets. C'est juste que du coup du fait de l'immigration etc on se retrouve majoritairement dans certaines classes sociales, donc forcément la vie entre guillemets générale qui ressort, c'est qu'on n'est pas forcément qu'on n'est pas les plus près avec l'art je sais pas comment dire, mais des trucs abstraits, des trucs pas très figuratifs qui parlent pas forcément au grand public, tu vois.
Kauter, je voulais juste rajouter que l'État joue beaucoup parce qu'en France, il y a beaucoup de fondations qui sont gérées par tu vois les conseils départementaux, régionaux. Il y a vraiment cette envie d'offrir à la population une
éducation artistique.
Voilà, une éducation artistique et aussi de maintenir un certain patrimoine, une certaine culture française. Et aussi de soutenir ces artistes français, entre autres, étrangers. Et je pense qu'au Maghreb, du moins au Maroc, il n'y a pas ces structures, parce que déjà, je pense que les pays ont d'autres problèmes que ça et que c'est typique de pays développés et riches, tu vois, les pays du Nord. Mais je pense que l'État joue beaucoup parce que même au collège, en histoire de l'art, tu vois, c'était, on a pris ça au sérieux parce que c'était noté, c'était pour le brevet. Et même dans l'éducation nationale, on veut nous transmettre cette sensibilité artistique. Et il n'y a pas que les parents qui jouent, il n'y a pas que le facteur social, comme tu dis. Il y a aussi ce facteur, pour le coup, gouvernemental.
Ouais, ouais, mais justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, si je peux. C'était que, justement, tu disais par rapport aux initiatives et tout, qui sont pas très... Enfin, qu'il n'y en a pas beaucoup de gouvernementales pour promouvoir l'art, etc. Mais justement, c'est un truc qui se fait un peu plus, je trouve, ces dernières années au Maroc, pas mal. T'as pas mal de festivals, que ce soit sur... Enfin, très ciblés, tu vois, par exemple, ça va être... y a pas mal de trucs, par exemple pour les musiques gnawa ou des choses comme ça. Et par exemple j'avais en tête le dernier truc représentatif de ça, mais justement en fait qui montre que parfois l'État est absent, c'est Nabil Ayouch avec je sais pas si vous avez vu le film Les Étoiles de Sidi Moumine. Non, il s'appelle pas comme ça, ça c'est le livre, c'est Les Chevaliers du Ciel, bref, donc ça raconte en fait l'histoire des attentats de Casablanca, donc en gros qui ont été perpétrés par des enfants de la ville en fait, qui viennent de Sidi Moumen, enfin de la ville, de Sidi Moumen, qui à l'époque était un bidonville, donc qui était dans la ville, pas dans la ville, voilà. Mais, et du coup en fait ça a débouché du coup sur un projet après ce film-là, parce qu'en gros il a fait jouer des acteurs de là-bas, enfin qui venaient du bidonville, etc. Et ça a débouché sur la création d'une MJC avec un peintre marocain qui s'appelle, je sais plus, Moha Binbin, je crois, il me semble.
Et du coup, là, c'est une initiative d'un citoyen ou d'un gouvernement ?
En fait, justement, en fait, c'est que c'est parti d'un artiste et qu'en gros, il est appuyé derrière, en fait, par le maire qui a fourni des bâtiments, etc. Mais justement, le gouvernement tout seul n'avait pas toutes les ressources financières, etc., pour pouvoir faire ce genre de projet.
Et du coup, Sidox, un peu comme Kauter, a une autre, a sa passion aussi un peu à lui, qui est l'écriture.
Exactement.
Et donc voilà, il écrit des romans, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises.
C'est ça, des romans.
Comment ça se passe dans ta vie par rapport à ça? Quelle place ça a dans ta vie? Et ouais, quel rapport aussi t'entretiens avec ta mif, avec ton entourage par rapport à ça?
Le rapport est super paradoxal. En fait, au début, un peu comme Amel, c'était un peu comme tout le monde. En fait, c'était un jardin secret, un échappatoire à plein de trucs qui me saoulaient. Et donc, j'écrivais pour me sentir mieux. Et c'est là où ça devient paradoxal, c'est que j'en parlais pas à mes parents. Mais quand je voyais mes parents, j'ai jamais connu la misère, que Dieu m'en préserve. Mais mes parents devaient faire attention quand même à leurs dépenses. Et je me disais, putain, un jour je vais faire plein de livres, je vais faire plein de projets, ça va faire plein de films, plein d'argent, et je vais déposer plein de billets devant mes parents, et je vais les mettre bien.
Ça, c'est l'objectif pour nous tous.
C'est ça, tu vois. Mais le paradoxe, c'est que je veux le faire à travers un moyen, je peux même pas leur en parler. Ouais. Je leur parle pas de mes livres, ils sont pas au courant de tout, ils sont pas au courant de mes projets, ils sont pas au courant de la taille non plus. Et pourtant, je le fais aussi pour eux, je le fais aussi dans l'objectif de les rendre fiers, de les mettre bien, de les aider. Même s'ils ne me le demandent pas, j'ai envie de le faire pour eux. Donc ouais, je trouve ça paradoxal, le fait que j'en parle pas tant que ça avec eux. C'est bizarre, hein, parce que pour me demander mes notes, mes réunions, toutes mes informations scolaires, mes parents sont très présents, mais mes romans un peu moins, et donc, mais je leur en veux pas.
Et du coup, j'avais une question, tu vois, bah, pour vous deux, pour Kauter et Sidox. Genre, tu vois, ce truc de honte, entre guillemets, de pas vouloir montrer, etc. Est-ce que c'est pas aussi relié, parce que je sais pas, tu disais quand la prof est derrière toi et tout, moi j'ai un peu ça aussi. Genre, j'aime pas qu'on me voit en train de faire quelque chose. Du coup, ouais, cette honte de pas vouloir montrer, est-ce que ça a pas aussi un rapport avec le fait que c'est dans une période ou un moment où tu considères que ton œuvre est en cours de construction, que t'es pas arrivé à ton maximum, mais à un niveau que t'assumes, tu vois. Un niveau où tu dis, ouais, là, c'est propre ce que je fais.
En fait, moi, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est que quand je couds, en fait, je suis à fond dedans. Et parfois, je fais même des mimiques, je m'en rends pas compte. Et je vois des gens, ils me regardent en mode, et chouloué. Et en fait, je suis vraiment à fond dedans. Et quand je sens la présence de quelqu'un, tu vois, c'est oppressant.
Ouais, ok, c'est juste, ouais, vraiment
et
de la concentration.
Ça me déconcentre et ça m'énerve. Et j'ai envie de frapper les gens qui font ça, mais je peux pas frapper ni ma mère ni ma prof. Du coup, je m'arrête et
t'attends.
J'attends.
Voilà. Non, moi, c'est autre chose. C'est un peu. T'étais pas là quand ça a commencé. Tu seras là quand je l'aurai décidé. Genre, comment dire? Des gens qui s'y sont intéressés dès le début, je leur en parle quand ils veulent. Mais il n'y en a pas. Au début, c'était vraiment moi pour moi. Ouais, c'est triste et tout, mais c'était vraiment moi pour moi. Personne s'y intéressait, etc. Et je vais attendre que ce soit solide. Par exemple, j'ai publié deux extraits sur Internet parce que c'était deux extraits finalisés, très propres, etc. Ceux-là, j'ai décidé de les montrer. Les gens qui n'étaient pas là au début, qui n'ont pas vu comment je me prenais la tête, etc., je ne vais pas leur montrer un truc pas finalisé.
Ouais.
Bah justement, moi, en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'en suis à un tout autre stade par rapport à vous. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la période, en fait, où je disais rien à mes parents, où j'avais super honte, où vraie meuf, limite, j'allais dire « Ouais, je sors avec une pote », alors qu'en fait, j'allais prendre une meuf. Tu vois, on sent, en fait, je faisais rien de mal. Et en fait, c'est ça ce qui me faisait vraiment mal, c'est que je faisais rien de mal, mais que je devais quand même
cacher ça, tu vois.
Cacher comme si c'était une bêtise. Et ça, franchement, en fait, même si j'avais reçu du love de plein de gens que je connais pas, de mes potes, j'étais entourée d'amour, tu vois, pour mes projets, le fait de pas avoir le soutien de mes parents et le fait de savoir que ce que je fais, bah, c'est peut-être une honte à la maison, tu vois, ça a été vraiment dur parce que, en fait, tu te retrouves dans un truc où faut apprendre à t'aimer assez et à avoir assez confiance en toi pour pouvoir remplacer, en fait, tu vois, ce soutien, ouais. En fait, un peu familial, un peu communautaire. Et Dieu merci, genre, bon, mes parents ont appris que j'écrivais des articles, que je faisais mon blog, etc. Et ils ont eu très peur, mais ils sont un peu énervés. Mais en fait,
quand ils sont énervés, après, j'ai compris qu'ils sont énervés parce qu'eux-mêmes avaient peur, tu vois. Qu'eux-mêmes avaient peur que je laisse tomber les études, que finalement, je me concentre que sur ça et que ça ne marche pas aussi. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et ce matin, je discutais avec mon père de tout ça. Mes parents, du coup, je leur ai parlé de la taille récemment aussi. Et je discutais de tout ça. Et mon père, il me disait, mais tu sais, Lina... c'est pas qu'une question de nous et tout, c'est juste que nous, en fait, on a eu un certain chemin. Mes parents, ils ont réussi grâce aux études, tu vois. Ils sont partis de rien du tout, ils ont réussi grâce aux études. Donc pour eux, en fait, c'est la voie qu'ils connaissent et pour eux, c'est cette voie-là qu'il faut suivre pour réussir, tu vois. Je dis pas que je compte pas faire d'études, mais que, en fait, ils envisageaient pas qu'il y ait d'autres voies où tu peux faire des choses. Et il m'a dit, en fait, il nous fallait juste un temps d'adaptation. Et Dieu merci maintenant, tu vois, genre quand je sors et que je vais à Bouscapé pour écrire mes articles, je vais chez Bouscapé. Quand je vais prendre une meuf en photo, je leur dis là je vais aller prendre, tu vois. Et il y a ce truc aussi de petit à petit, ça a été long, mais en fait ouais, il y avait ça et il y avait le fait aussi que j'avais raté ma première année et après je me suis grave remise à fond dans les études, j'ai eu des bonnes notes, ça les a rassurés de ouf. Et quand ils ont vu ça, quand ils ont vu que je réussissais à avoir mon truc, quand ils ont vu qu'il y avait des choses comme, je sais pas, palmarès des femmes en flanc, des trucs comme ça, tu vois, pareil, ça les a un petit peu rassurés. Ils se sont dit, bon, ok, ça va. Elle fait pas n'importe quoi, tu vois. Ouais, quand je ramène des petits trucs, des petits cadeaux à la maison et tout, tu vois, aussi. Et ouais, ça les a vraiment rassurés, ça, et le fait qu'ils voient que j'ai des bonnes notes. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de timing. C'est une question qui est très difficile à gérer. Genre vraiment. Et qui peut vraiment blesser. Il faut vraiment apprendre à être plus fort que ça, quoi. Si tu voulais réagir.
Non, du tout.
Kauter.
Moi, je voulais faire part aussi de cette expérience du fait de devoir mentir H24. Genre moi, je mentais quand j'allais à Paris pour les Fashion Week et tout. Et je me disais, j'avais des grosses remises en question. Et je me disais, mais t'as assez confiance en toi pour refaire tel ou tel projet, mais t'as pas assez confiance en toi et en ta mère pour lui dire la vérité sur un truc aussi con, tu vois.
Et mais c'est difficile.
C'est hyper difficile, même encore aujourd'hui.
Parce que c'est intime aussi un peu.
Et aujourd'hui, j'essaye de lui faire part de mes certains projets et tout, et quand je lui en parle, elle reste de marbre. Elle reste froide. Genre, j'ai dit qu'une grande école de commerce m'avait contactée pour faire un défilé où il y aura sûrement des contacts de Hermès et Chanel. Elle a rien dit.
Non, mais ça, c'est normal.
Elle a même pas dit normal. C'est bien ou un, d'accord. Normal. Même pas tranquille. D'accord, ouais.
Normal. Tranquille. Quand j'ai gagné d'accord. Le palmarès des femmes influentes, mon père, il m'a dit, genre, je lui ai dit ça. Juste après, genre, tu sais, on a eu bouteille de ruinard à la maison, tu sais, truc de ouf, genre, giga bouquet de fleurs et tout dans ma chambre et tout. Et il m'a dit, ok, très bien, sinon ton partiel là, t'as eu combien? Il n'y a pas de. Papa, je vais peut-être faire un truc avec tel hôtel, j'ai rencontré tel. Papa, j'étais sur Click, j'étais avec Mouloud Achour. Mon père, il me voit regarder ses vidéos depuis que j'ai 14 piges. Il m'a dit, ok, mais t'as passé toute l'après-midi là-bas aussi, toi, t'as pas travaillé ça.
Voilà, ça c'est.
Non, mais aussi,
ils m'ont jamais dit, genre.
Ils aiment le concret, le concret, ça, pour être rassuré, tu
c'est
vois
ça.
Ce que je veux dire.
En fait, mon père, il va s'arrêter un moment dans la journée, tu vois, et il va dire, bon, genre, je te le dis jamais, mais je suis hyper fière de toi. Mais en fait, le jour où il se passe un truc de ouf, il me le dit pas, tu vois. Genre,
on sait qu'il nous aime, on sait.
Ça,
c'est ça, tous, c'est que ouais. Tu sais, c'est que ça veut rien dire, en fait, c'est que c'est une question, ouais, c'est peut-être, elle te le dit pas, et je suis sûre qu'un jour...
Un jour, quand je ramènerai du bif à la maison, ouais, voilà, là, oui, ouais, ça ne fait pas avant.
Parce que
normal,
c'est du concret,
bah oui,
c'est
normal.
Ouais, c'est même l'argent, c'est du concret. Alors que des passions, des rêves, c'est juste des paroles. Surtout que eux, par exemple, le truc du palmarès des femmes influentes, c'est quoi pour eux? Genre, ils savent pas ce que c'est, tu
là,
vois.
C'est quoi pour nous?
Ouais, voilà,
même,
genre,
même pour nous, genre, nous, ouais, on a conscience que c'est un truc de fou.
Ouais, mais parce qu'on sait, parce qu'après, genre, Lina, elle met le lien et on voit, et oh, il y a des gens, tu vois.
Brigitte Macron.
C'est ça.
Voilà, tu vois, c'est nous, on s'en rend compte, mais eux, genre, quand c'est que des paroles, c'est quoi? Genre, ils s'en rendent pas compte. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, genre, c'est pas, on n'a pas les mêmes réalités.
Et dans ton cas, toi, c'était quoi le...
Moi, je suis pas artiste du tout, mais du coup, ouais, par exemple, pour l'été, je vais pas le dire à mes parents. Enfin, mon père, déjà, il va mal le prendre, mais il va pas comprendre, tu vois. Et donc, je préfère pas me confronter à ça.
Et pourtant, je suis sûre que si un jour, il tombe dessus... Et qui voient peut-être que t'as fait ça, tu vois, ils seront fiers de toi.
Genre. Ouais, sûrement. En plus, le fait qu'on soit genre en communauté, des rebeux, mes parents, ils sont assez communautaires, tu vois. Pareil. Et donc, ils vont voir ça, ils vont dire, oh, donc, c'est pas une perdue, ma fille. Genre, ça va.
C'est pas une fréquentation.
Ouais, voilà. Et donc, il y a moyen qu'ils le prennent bien, mais genre, j'oserais jamais leur dire. Et ma mère, elle est assez ouverte d'esprit. En fait, ma mère, elle a réussi au bled avec ses études. Elle a été dentiste, elle a réussi sa vie, elle s'est mariée, elle a fait des enfants, etc., etc. Mais du coup, elle a jamais écouté le côté artiste en elle. Et juste récemment, elle commence à s'intéresser à l'art plastique, des choses comme ça. Mais du coup, c'est quelque chose qu'elle a fait quand elle a été retraitée, en fait. Quand elle était femme au foyer, retraitée, sans travail, du coup, c'est une occupation à côté. Du coup, je pense que si j'aurais été... Non. Si j'avais été, putain, à chaque fois, et je fous la honte, de où je suis la honte. Donc si j'avais été artiste ou j'aurais eu un quelconque talent, je pense pas qu'elle m'aurait poussé à faire ça d'une manière... elle m'aurait poussé vers une carrière artistique, genre en mode c'est ma profession, je suis couturière, je suis modéliste, je suis peintre. Genre elle m'aurait pas encouragée dans ça.
Ok. Alors on va faire une deuxième petite pause musicale où on va écouter une artiste que j'adore, qui s'appelle Tara, qui elle est franco-algérienne. Du coup elle aussi assez touchée par toutes ces questions. Et j'avais envie qu'on écoute en fait une de ses chansons, qui est probablement dans mon top 3 de mes chansons préférées de tous les temps. On écoute Touareg Chaouli de Tara sur la taille. Alors aujourd'hui, on a plein de petites recommandations à vous donner. Du coup, je vais commencer par moi, comme je suis déjà en train de parler. Hein. Ma recommandation, c'est Musée Besbar. Donc, c'est un compte Instagram
un compte Instagram qui a pour objectif la promotion d'artistes et créateurs maghrébins du monde entier sur une plateforme qui leur est exclusivement dédiée. Donc c'est un compte Insta où en fait vous pouvez retrouver plein de portraits d'artistes d'artistes maghrébins, arabo-maghrébins, des vidéos, des petites interviews, des petits takeovers. C'est vraiment très 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 bien fait et donc on vous conseille ça fort. Sid.
Moi c'est Samarkand, le roman d'Amin Malouf, qui est clairement l'une des plus grosses claques artistiques que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est vraiment un régal. Il y a de tout, il y a de l'histoire, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, en fait c'est une grande dose d'émotions diverses au fil des pages. Et alors la fin du livre, c'est une espèce d'apothéose incroyable où tu sais plus quoi penser, mais où tu te sens en vie en fait. Et c'est magnifique. C'est vraiment très à l'image de notre communauté, donc j'ai kiffé, je vous le recommande.
Kauter.
Pour moi, je vous conseillerais l'Instagram de Mouslam Rabat, qui est un photographe, je crois qu'il est basé en Belgique et aussi au Maroc, et c'est d'où il tient son origine. Et j'aime beaucoup sa manière de représenter notre culture et nos... My people, you know. Et c'est une grande source d'inspiration pour moi, et du coup je tenais vraiment à ce que vous connaissiez son existence.
Ziad.
Alors moi je vais parler du coup de Sofiane Hounox. Du coup c'est un designer graphique qui touche un peu à tout, genre au chara-design, enfin beaucoup de choses différentes, et qui est marocain d'origine, il me semble. Enfin, je suis sûr en fait. Même, c'est un frérot du Maroc. Et du coup, voilà, ça me fait plaisir de le faire croquer. Si ça peut lui ramener de la clientèle. Donc, allez lui donner vos plus gros billets pour vos plus beaux projets. D'ailleurs, j'ai un pote, j'ai des amis qui ont un projet avec lui en ce moment et qui sont très satisfaits. Donc, n'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas.
Théophile.
Ma recommandation, c'est un compte Instagram qui s'appelle Personne Narcissée versus Grindr. L'application de rencontre a pas mal de casseroles derrière elle, et on a notamment des petites citations de fétichisme et d'exorcisation des personnes racisées. Il y en a une notamment qui dit « J'ai envie de te sucer pour te prouver que je ne suis pas raciste ». Et ça, ça veut tout dire. Et je pense que c'est intéressant de mettre la lumière sur les relations et les dimensions de pouvoir et de fétichisation envers les personnes racisées. Dans les communautés gays, notamment.
Nesrine.
Du coup, moi, je vous recommande d'aller écouter le dernier album de Jul.
Jul.
La zone en personne.
La zone en personne est merci. 40 titres,
zéro faute.
Zéro défaite.
Et merci.
C'est quoi ton préféré de l'album ?
Il y en a trop. Mais j'aime trop Alléluia. Ouais, entre autres.
Alléluia, elle est ouf.
Entre autres.
Okay. Sangoten.
Moi c'est je vais tout casser.
Ouais, je vais tout casser.
Imagine en concert.
Je vais tout casser,
elle est incroyable.
Et sur Pépé aussi, elle est ouf.
Il est génial cet homme.
T'en as pris l'accent carrément, Ziad.
Ah, mais bien sûr, quand tu parles de Jules, il vient forcément parce que t'as vu, il prononce avec l'accent. Donc tu l'imprimes avec.
À toi, Amel.
Alors moi, ma recommandation, ça sera Scanderous. Du coup, c'est un compte Instagram. Et c'est un gars, en fait, qui mélange pop art et zlige et... culture maghrébine, et il fait des trucs de ouf, genre mélanger Babouche et Louis Vuitton et Zlige, en gros.
Ouais.
Alors, et d'ailleurs, je crois que t'aimes bien ça.
Et grosse dédicace du coup à lui qui m'a aidé pour un projet pour l'école. Merci beaucoup.
Il est archi sympa du coup, ouais.
Merci beaucoup.
Avant de finir, une petite case dédiée au community manager des produits laitiers.
Il
fait mourir de rire. Parce que vraiment, sans lui, la journée serait moins rigolote, franchement. Dès le réveil.
Voilà, merci à tous. On se retrouve le mois prochain en 2019.
La Teille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Ziad, Kauter, Sidox, Amel, Nesrine et Théophile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'équipe de La Teille sur Instagram @lateillepodcast et vous abonner sur SoundCloud. Le thé est servi. Le thé a refroidi. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain, Inch'Allah.